Nous voilà sur place au Salon de l'agriculture. Alors pendant plusieurs jours, la plus grande ferme de France, c'est 1000 exposants pour plus de 4000 animaux. Et aujourd'hui, pour Radio Alpa et l'émission Sarthe au naturel, nous sommes allés à Paris pour couvrir ce salon et surtout découvrir ce que la Sarthe et le département proposent. Il est 9h du matin et on est debout depuis 6h déjà. Alors pour démarrer ce salon de l'agriculture, on va aller rencontrer les éleveurs et les producteurs sartois. Et évidemment, quand on parle de notre département, on pense au poulet de Loué. On rencontre Yves qui participe d'ailleurs à son dernier salon cette année. Alors justement Yves, on est aujourd'hui au salon de l'agriculture, à côté du stand de la région des Pays de la Loire. Vous êtes entouré dans un enclos avec de la paille et derrière vous je vois une cage en verre. On a dit qu'on était à Loué donc on pense aux poules. Qu'est-ce que c'est derrière vous?
En fait on appelle ça une couveuse et dans cette couveuse il y a des œufs qui sont sur le point d'éclore, qui ce matin encore étaient dans le village de Loué, au prix de TGV, le métro, et arrivent ici pour éclore. Ils sont au 20e jour de la couvaison et au 21e jour les poussins doivent sortir. Les plus pressés sont déjà sortis d'ailleurs, donc il y en a un qui est sorti dans le TGV ce matin, qui s'appelle d'ailleurs Loué Express à cause de ça. Et donc toute la journée, donc, on va montrer aux visiteurs qui sont nombreux au salon ce côté magique de l'éclosion d'un poussin, ce côté merveilleux et magique de l'éclosion d'un poussin.
Justement, oui, on les voit éclore en direct, hein. Il y en a déjà 3-4 qui ont sorti le bout de leur tête. Comment est-ce qu'ils sont conservés? Est-ce qu'il y a une température en particulier? Est-ce qu'il y a de la lumière notamment?
Alors la lumière qu'on a dans la couveuse, c'est pour générer de la température, donc qui doit être aux environs de 37,65 quand on est dans la précision, 37,5 à peu près, qui est la bonne température pour une éclosion et pour la couvaison des œufs. Ici, on a 30 poussins qui vont éclore dans cette couveuse. On a une deuxième couveuse là-bas où il y a 30 poussins encore. Et sur l'ensemble du salon, on va faire éclore 400 poussins. Tous les jours, tous les deux jours parfois, on va apporter des œufs nouveaux. Et les poussins après, d'ailleurs, une fois qu'ils sont sortis de la coquille, qu'ils ont consommé leurs réserves, parce qu'ils ont une petite réserve dans le corps, on leur donne à manger et à boire ici. Et après, ils repartent de nouveau voir la belle campagne sartoise.
Mais alors, ce qu'on se demande, c'est comment est-ce qu'il fait pour casser sa coquille et sortir en faisant seulement 40 grammes?
C'est une excellente question. En effet, le sujet, c'est que pour casser sa coquille, le poussin ne peut pas la casser avec son bec comme nous, on l'apprend aux enfants, puisque sa tête est tournée sous l'aile. Il a un outil merveilleux, microscopique, qui s'appelle le diamant. Et le diamant, c'est une toute petite aiguille qui est sur le dessus du bec, qu'il utilise comme on utilise un ouvre-boîte, et qui tourne dans la coquille, comme on ouvre une boîte de conserve, de l'intérieur en quelque sorte. Et quand il a fini de découper la coquille, ça met entre 2 et 12 heures, hein. Il sort de la coquille et le diamant tombe par terre. Et ce qui est merveilleux ici, et comme on le fait aussi aux 4 jours au Mans, c'est de pouvoir voir le diamant du bec parce qu'au bout d'une journée, il tombe par terre.
Alors, je suis Marine Pelletier, je suis commerciale à la sellerie Percheron de Saint-Agile dans le Loir-et-Cher. Je suis ici durant toute la durée du salon pour représenter la race Percheron et avec ma jument Fissa de la Meule et notamment sur l'épreuve montée qui aura lieu jeudi après-midi. Pour vous parler un petit peu de la race, alors j'ai pas toutes les données chiffrées, mais c'est une des 9 races de chevaux de trait. C'est la plus emblématique, c'est la plus mondialement connue et à l'échelle nationale. On est à peu près à 900 naissances par an à l'échelle nationale. Et donc on a tous les ans des championnats de France qui sont organisés au Haras du Pin en Normandie et qui nous permettent notamment de nous sélectionner et sur le modèle et sur le côté utilisation au Salon de l'agriculture de Paris.
Physiquement, comment est-ce qu'elle est cette race? De quelle couleur? Est-ce que c'est un cheval assez grand, assez fort?
C'est le percheron, il existe deux types de percherons. On a ce qu'on appelle le cheval de percheron dit trait. Donc le cheval de percheron dit trait, c'est un cheval qui est assez massif, qui est en moyenne, alors le cheval percheron fait en moyenne 800 kg pour les femelles. On peut monter à un petit peu plus d'une tonne pour les étalons. Et on a également le type diligencier, donc ce sont des chevaux qui sont plus grands, un petit peu plus élancés et au niveau des allures qui se déplacent un petit peu mieux, donc qu'on utilise généralement pour l'utilisation.
On a donc des concours. Qu'est-ce qu'on met en avant dans un concours? Qu'est-ce qu'on essaye de valoriser? Qu'est-ce qu'on scrute en premier finalement?
Tout dépend de quel côté nous sommes, si nous sommes du côté éleveur ou du côté utilisateur. Pour ma part, en tout cas, ce que je recherche, c'est un cheval qui est dynamique, volontaire, qui a un bon caractère et qui va me permettre justement de pouvoir participer à différents types d'événements, comme par exemple le salon de l'agriculture.
Et alors le caractère volontaire, mais comment est-ce qu'on le remarque ça sur un cheval? Faut connaître bien les animaux, surtout
oui.
Si on est du côté des utilisateurs.
Oui, alors on a quelques années d'expérience, on a la passion du cheval depuis de nombreuses années, et c'est ce qui nous permet d'avoir un œil dessus. Et puis on a l'occasion de travailler les chevaux et on apprend à se connaître, on crée une véritable relation en fait, ce qui nous permet ensuite d'avancer ensemble.
Et comment elle s'appelle déjà?
C'est Fissa de la Mule, c'est une jument percheronne de 9 ans.
Il y a une histoire derrière ce nom qu'elle a?
Alors, elle s'appelle Fissa parce qu'elle est née rapidement et sa maman s'appelle Speedine parce qu'également elle est née rapidement.
Alors Nicolas, bonjour. On est notamment à l'endroit des bovins, des vaches. Qu'est-ce que vous présentez concrètement aujourd'hui?
Donc j'ai amené un animal de la race brune, donc laitière qui est originaire de la Suisse, qui s'est développée autour de l'arc alpin, donc en Italie, en Autriche, en France, en Italie. Enfin, toute cette zone-là, il y a pas mal de brunes. Et puis il y a également une population importante aux États-Unis.
Et vous avez été récompensé donc?
Donc cette année, oui, j'ai été récompensé au concours qui avait lieu hier, donc avec un premier prix dans sa section et ensuite donc un deuxième prix sur la grande championne.
Donc c'est vraiment la beauté de l'animal qu'on met en avant?
Uniquement, oui, c'est uniquement sur les concours de ce type-là, c'est uniquement sur la qualité morphologique, oui, de l'animal.
Et alors, qu'en pensent les élus et les représentants sartois?
François Boussard, je suis vice-président du conseil départemental en charge de l'aménagement du territoire, l'agriculture et développement durable. Les enjeux sont multiples, surtout de valoriser le savoir de nos éleveurs, puisqu'on parle beaucoup d'élevage. Éleveurs ou producteurs, que ce soit des viticulteurs, des arboriculteurs, des transformateurs. On sait que c'est 3500 exploitations, donc chefs d'entreprise. C'est un peu plus d'un milliard de chiffres d'affaires qui sont mis en œuvre sur la Sarthe. Donc on connaît la pertinence et surtout la diversité des productions avec des environnements à préserver, à conserver, avec des systèmes variés et divers, avec un enjeu fort du maintien de l'élevage sur lequel on est très impliqué au niveau du conseil départemental de la Sarthe et surtout de transmission auprès de nos jeunes qui sont pour beaucoup passionnés, qui sont nombreux dans les lycées professionnels qui sont avec nous en délégation, dont certains hésitent pour franchir le pas d'une installation ou d'une transmission.
Et alors aujourd'hui, est-ce qu'il est important aussi d'aborder de près ou de loin les questions de l'agriculture de demain, surtout en prenant en compte les questions de climat, de conditions animales, surtout dans un contexte tendu dans lequel est l'agriculture ces dernières semaines?
Oui, il faut tout prendre en compte. Le premier sujet est que le monde agricole et les chefs d'entreprise agriculteurs, agricultrices, vivent de leur métier d'une façon sereine, soient rémunérés de leur temps passé, de leur engagement, de leur prise de risque. Quand on investit dans une exploitation agricole, c'est 500, 800, 900 000 euros, donc c'est un engagement fort, c'est 30, 40 ans d'engagement, et bien c'est surtout vivre de son métier avec des contraintes administratives qu'il faut revoir vraiment de façon importante. Trop de dossiers administratifs, trop de préparation, trop de contrôle et d'autocontrôle. Faisons confiance à ceux qui ont besoin de la terre, qui ont besoin de l'eau, dans leur vocation qui est de nourrir les Sartoises, les Français et les Françaises. Donc en prenant en compte bien sûr les modifications du dérèglement climatique qui sont forts, qu'il faut intégrer dans nos systèmes, qu'il faut modifier en termes de façon culturelle, en termes d'élevage, pour économiser l'eau, pour avoir d'autres productions agricoles pour les nourrir. Enfin, des petits détails, mais faisons confiance aux acteurs professionnels que sont les agriculteurs et les agricultrices qui sont très investis. Et vraiment, je tiens à remarquer l'engagement très fort des jeunes agriculteurs sur le système, et notamment ceux qui font des circuits courts, c'est qu'ils veulent démontrer, produire et distribuer au plus près des consommateurs pour éviter les intermédiaires et bénéficier aussi de leur savoir.
On a parlé des animaux, des éleveurs, etc. Alors peut-être que maintenant on peut faire place aux produits de région et surtout à la dégustation. Alors on va sortir et on va changer de pavillon pour aller découvrir les différentes régions françaises et surtout trouver la région des Pays de la Loire.
Ben voilà les Pays de la Loire, ça fait 2 heures que je vous cherche.
2 heures.
Je peux goûter votre miel? J'ai le droit?
Oui.
Il est très bon, on peut le décrire un petit peu?
C'est un miel qui est assez rond, principalement miel de tournesol, et assez lisse en texture, qui a un un crémeux qui est très appréciable. Je peux vous faire goûter le miel de châtaignier également si vous voulez.
Ah bah avec plaisir. Ah, il est plus liquide lui.
Celui-ci il vient directement de la Braille-les-Pins.
D'accord.
Oui, oui, vraiment les ruches sont à proximité de l'exploitation pour ce rucher-là.
Vous êtes bien accompagné là, Jérôme?
Bah oui, bah nous on aime la bière, on aime la bonne vie, voilà, c'est ça le micro-trottoir. Hein.
Et alors vous venez d'où?
Ah, nous on vient de Grand Est, Nancy.
C'est les Pays de la Loire.
Bah le Mans, bah nous on va 24 heures au Mans, bah voilà, non. Et les rillettes, voilà, nous on connaît le Mans.
Et alors où est-ce que vous voulez aller là? Vous venez du Grand Est?
Ouais, après on va aller voir la Normandie par exemple. Hein. On aime bien les huîtres, on va essayer de manger quelques huîtres. On a vu les taureaux là qui avaient des grosses baloches. Bon allez.
Bonjour, je peux goûter aussi?
Vas-y, je t'en prie.
Alors c'est fait avec quoi?
Que du bœuf. Donc là c'est la partie du bœuf bourguignon. Ok. On fait également le saucisson avec la partie du collier du bœuf. Que du pur produit et fait avec la graisse de volaille.
Tout ça, ça vient de chez nous, notre région?
Tout à fait, le Mans directement. Basé au Mans directement et à la Ferté-Bernard après tout ce qui est produit.
Magnifique.
Des produits locaux.
Alors je peux goûter le saucisson?
Bien sûr.
Bah, j'en profite hein. Alors.
Là c'est pareil, que faire avec le collier directement? Pas de rajout. Tu vois la couleur, c'est pas fait pareil.
Donc le collier c'est la partie avant, c'est ça?
Tout à fait. Et après les rillettes, c'est fait avec la partie du bœuf bourguignon.
Le fait d'être en Sarthe, ça pousse aussi à essayer d'aller dans l'originalité avec les rillettes.
La spécialité, c'est le côté différent, entre guillemets, sur les côtés bœuf. On a toujours le côté rillette de porc, les classiques. Et là, on reste sur le côté bœuf, le rillette d'oie, les rillettes de canard. Mais chez nous, c'est le bœuf.
Et là, où est-ce qu'on peut vous trouver au Mans et en Sarthe?
Directement au Mans, on est côté association. Nous, on travaille avec le bœuf fermé du Maine, donc 100% label rouge, IGP. Et on travaille avec tout ce qui est charcuterie, boucher et traiteur.
Et on va laisser réduire tout doucement. Et après, on va couper la côte de bœuf qui est ici.
Dis donc, vous êtes partout les Mayennais là. Alors qu'est-ce que vous me proposez à boire?
Je peux vous proposer du cidre.
Ouais.
Du pommeau.
Ça m'intrigue le pommeau. Bon, là je goûte ça. Ah oui donc, c'est bien pour la digestion. Ouais. Donc qu'est-ce qu'il y a là-dedans?
Alors le pommeau c'est un pommeau du Maine, donc il y a une AOC, une appellation d'origine contrôlée. Donc c'est un mélange de jus de pomme et d'eau de vie de cidre qu'on a fait vieillir en fût de chêne minimum 2 ans.
Et qu'est-ce que ça fait qu'on le fasse vieillir 2 ans précisément? Ça rajoute des saveurs en particulier?
Oui, en fait, bah, ça allonge les saveurs, ça permet qu'ils soient bien mélangés, que l'alcool et le jus soient bien fondus et du coup qu'ils prennent bien en fait les arômes du bois aussi.
Et vous proposez donc du cidre également?
Oui, tout à fait. Donc on propose aussi du cidre. Donc là, c'est un cidre un peu particulier. C'est un cidre qui est plutôt acidulé, donc avec une variété de pommes à cidre acidulée, donc qui est très frais, très fruité et peu alcoolisé.
Voilà. Et alors pour les gens qui vont nous écouter dans ce reportage, on est Sartois, nous. Ah. Alors est-ce que je demande aux Sartois de venir vous déguster et de découvrir tout ce que vous faites?
Bah oui, c'est toujours intéressant de découvrir les autres produits des autres départements. Donc il faut venir découvrir les produits mayennais. Vous avez plusieurs produits sur le stand de la Mayenne, donc bien sûr les produits cidricoles, il y a du fromage de chèvre, il y a des terrines de volaille, il y a des terrines de bœuf, des pâtes, tout ça c'est issu des producteurs bienvenus à la ferme de la Mayenne.
Et puis le Salon de l'Agriculture cherche aussi à mettre en avant des initiatives locales portées sur la sensibilisation aux enjeux climatiques et sur l'agriculture de demain notamment.
Bonjour, je m'appelle Maxime Brindeau et du coup cette semaine je suis avec mon entreprise Maitri en fait. C'est une entreprise qui accompagne des porteurs de projets, donc généralement des agriculteurs, qui ont des projets de plantation de haies bocagères ou de réinstallation d'arbres champêtres dans leurs exploitations. Donc on fait tout type d'aménagement, ça va vraiment des haies bocagères simples, doubles, triples, ou bosquets, plantation d'agroforesterie intraparcellaire. Donc ça c'est juste mettre des alignements d'arbres au milieu des champs, quoi. Ça permet de recultiver sur plusieurs étages. Et on fait aussi des ripisylves et des forêts nourricières. On donne des conseils en fait, on peut déjà commencer à établir un peu les prémices de votre projet. Parce que nous ce qu'on essaye de faire c'est d'abord une première visite de diagnostic où on vient sur le terrain pour essayer de bien comprendre les problématiques qu'il y a sur votre exploitation, les différents enjeux. Après c'est aussi faire une analyse de sol et de climat pour voir un peu ce qui est possible de faire, quelles essences on peut installer en fait.
En parlant de climat, c'est une manière du coup d'aborder ce salon de l'agriculture sous un angle un peu différent, en parlant de l'agriculture et du climat de demain, et des enjeux surtout qu'on prend en compte quand on sait que l'agriculture est en ce moment assez pointée du doigt sur pas mal d'aspects.
Bah ouais, tout à fait, en fait, nous on est très axés sur les services écosystémiques que les haies peuvent apporter. On va tout de suite penser au carbone dans un premier temps, et c'est vrai que les haies ça permet d'absorber plus de carbone via le bois des arbres, mais ça permet aussi de limiter l'érosion des sols, parce que ça c'est un enjeu de l'agriculture qu'on parle pas assez, mais l'érosion des sols c'est dramatique, et c'est des choses qui mettent énormément de temps à se reconstruire, et ça permet également aussi de favoriser la biodiversité. On parle beaucoup des habitats écologiques qui sont éclatés en ce moment. Pour ceux qui connaissent, il y a la trame verte et bleue où ils essayent de reconnecter en fait différentes aires géographiques qui étaient déconnectées, notamment à cause des routes, des installations urbaines. Du coup, en fait, les haies, ça permet de recréer du maillage en fait dans le paysage pour recréer, on va dire, des corridors écologiques pour certaines espèces.
Au-delà de ça, il y a vraiment tout un volet de sensibilisation en fait auprès du public.
Ouais, tout à fait. Alors après, il y a de plus en plus une portion des agriculteurs qui sont vraiment très sensibles à ces questions-là et qui comprennent que en fait, les arbres, ça peut vraiment servir leur système. Donc la première raison pour laquelle nous, il y a des agriculteurs qui nous contactent pour vouloir planter des haies, c'est pour réinstaller des brise-vents en fait sur leur parcelle. Parce qu'après la guerre, dans les années 50, il y a eu le grand remembrement, on a arraché plein de haies, on a ouvert les paysages. Et en fait, là, à l'heure actuelle, on fait un peu un retour en arrière, on se rend compte que c'était pas forcément... que ça avait des désavantages, et notamment le vent. Parce qu'on pense à tort que l'un des plus gros facteurs de dessèchement, c'est la température, alors qu'en fait, c'est le vent. Et du coup, une haie brise-vent bien gérée, ça peut protéger sur 15 à 20 fois sa hauteur. Et en fait, ça permet comme ça d'augmenter les rendements. On constate une baisse de rendement au pied des haies, à cause de la concurrence des arbres, pour l'eau et la lumière. Mais après, ce qu'on constate moins, mais les études scientifiques le montrent, c'est qu'au centre de la parcelle, il va y avoir une augmentation de rendement. Et du coup, de manière générale, les haies, ça permet d'augmenter les rendements agricoles.
Alors là, on est à Paris. Où est-ce qu'on peut vous rencontrer au Mans et en Sarthe?
Au Mans et en Sarthe, alors on n'a pas de bureau. Du coup, mais vous pouvez nous contacter sur notre site internet mytree.com. Et voilà, donc si jamais vous avez un projet de haies bocagères ou d'agroforesterie intraparcellaire, n'hésitez pas à nous contacter. On a un formulaire sur notre site et après on pourra s'appeler. A savoir que notre accompagnement il est 100% gratuit, parce que nous on se finance avec des aides soit privées soit publiques, et ça nous permet également de financer les plans, les protections pour les plans et un suivi de votre projet sur 3 ans après la plantation.
Donc Mytree,
Mytree.
Merci beaucoup Maxime. C'est la fin de cet épisode de Sarthe Naturel consacré à cette édition 2024 du Salon de l'Agriculture à Paris. Vous pouvez réécouter ce reportage sur radioalpa.com et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt sur notre antenne.